Salut à toi qui nous écoutes et merci beaucoup d'écouter Onzième Art. Si nos émissions te plaisent, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur les plateformes de podcast et des petits pouces si tu nous écoutes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement et c'est ça qui nous permet de grandir. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram si tu veux échanger avec nous et une cagnotte est disponible sur Hello Asso si tu veux nous soutenir financièrement en faisant des dons. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bon épisode!
Le foot est moche. En général, il est vraiment pas beau du tout. C'est pour ça qu'on change de cap, qu'on change un peu l'émission. N'ayez pas peur, on n'est pas devenu cynique, blasé ou énervé, non. Mais quand on prétend essayer de tout aborder, il faut au moins essayer. Le foot est moche, disais-je. Alors je ne parle pas du jeu, de ses émotions, du carré vert, éternel arbre cachant une forêt devenant de plus en plus dangereuse. Non, je parle du foot en tant qu'organisation. Quoique dans le jeu, j'ai passé quelques dimanches à 15h m'interrogeant sur le sens de la vie devant un Toulouse-Clermont. Le foot en tant qu'organisation, qu'on le veuille ou non, est assez dégueulasse. Ça fait 2 ans qu'on vous parle des belles histoires, des mecs sympas et intègres qui bossent pour le plaisir et la passion, mais y a pas que. La preuve, c'est qu'au bout de 2 ans, un peu plus de 40 sujets, on a fait le tour. Il est temps de parler d'une bonne majorité crasse qui pullule dans notre si merveilleux sport. Pas les moches malgré eux, les pauvres types qui sont là sans trop savoir pourquoi, non, les salopards. Car ça existe, les incompétents car trop imbus, les pourris car trop gourmands, les guerres d'ego et de fric. Car il y en a beaucoup, beaucoup trop. Alors je vous rassure, on va pas se transformer non plus en Mediapart, on va pas encore s'attaquer à la FIFA, les coupes du monde dans des endroits bizarres, les abus sur mineurs, les pots de vin, le grand banditisme, non non, on va laisser ça à des gens dont c'est le métier. Mais à notre petite échelle, on peut au moins parler de ces enfoirés, et ils sont de plus en plus. Ceux qui prennent nos clubs en otage, ceux qui n'en ont rien à foutre, qui sont là pour un petit ego, un petit billet ou un gros, ceux qui salissent la passion des supporters, qui sont maudits de suivre tel ou tel club. Car c'est une malédiction. Un mauvais propriétaire, une mauvaise gestion. Car que cela dure 3, 7 ou 20 ans, nous on sera là. En première division ou en quatrième, nous on sera là. Au lieu de subir les folies d'un sport qui tourne de plus en plus autour du fric sur l'autel d'une passion plutôt saine à la base. On va essayer de décrypter le mal, de comprendre et d'analyser, de donner un avis, mais malheureusement, on soignera rien. Ce sera juste un mini exutoire en attendant que le règne des enfoirés s'achève, s'il s'achève un jour. Alors oui, le foot est moche, mais il ne l'a pas toujours été. Il reste un vecteur de formidables histoires, de magnifiques émotions, et c'est ce qu'il était à la base. Alors on va essayer à notre petite échelle, encore une fois, d'analyser en profondeur ces clubs où certains semblent se foutre de tout ça et à travers nos émissions, parfois je l'espère, vous redonner de l'espoir. Car nous, peuple du foot, tout ce qu'on a toujours voulu, c'est voir 22 mecs courir sur un pré, se disputer un ballon pour gagner une compétition. Le reste, il est venu, mais on n'en a rien demandé. J'ai même envie de dire qu'on en a un peu rien à foutre. Alors on est ensemble les gars et Poteau Carré fait sa mue, parlons du foot moche, ce gros salopard. Bienvenue à tous les amis pour ce deuxième épisode de 2024, ce deuxième épisode sur ces clubs qui sont gérés comme je gère mon livret A, sauf que moi c'est juste que j'ai de la phobie administrative. Pour m'accompagner aujourd'hui, celui qui ne jure que par la passion, les émotions et la fidélité, la preuve il passe sa vie dans les bouquins d'histoire de ce sport qui fut jadis surtout un sport, ça va Flo ?
Écoute, ça va très bien, ça va très bien, parce que, tu vois je fais des émissions où on parle forcément de clubs historiques du coup.
Oui toujours, on vient te chercher que pour ça.
Exactement, c'est vrai que Lecce, en même temps, j'ai souvenir de Lecce qui avait une histoire incroyable, incroyable.
Non, j'y tente, t'avais gueulé. À côté de lui, notre hipster, car c'est maintenant souvent dans les championnats exotiques, les petites structures qu'on retrouve le goût du foot qu'on aime, lui a décidé de tous les regarder, ce qui lui fait 1264 matchs par semaine, mais il trouve un peu de temps pour nous, ça va Tom ?
Ouais, de temps en temps, je trouve un peu de temps. Bon, l'avantage du chômage, c'est que t'en as beaucoup du temps, mais beaucoup plus pour la CAN actuellement. Je t'avoue que le foot de club, à part les magnifiques épopées de Luton hier soir, ça c'était magnifique, mais autrement, c'est plutôt la CAN qui me chauffe en ce moment.
Ouais, bah c'est pratique en plus quand t'es au chômage. Bon, là, remarque, il y a de moins en moins de matchs, donc on va finir par revenir dans un calendrier foot plus normal, plus droit de s'éclater à 14h30 en double écran. Bon allez les gars, on va s'attaquer à un gros morceau aujourd'hui, donc je propose qu'on y aille tout de suite. Partons vers un club que je ne déteste pas, mais que j'aime détester, nuance, le Football Club de Nantes. FC Kita, Kita Circus, crise tous les 3 mois, supporters mécontents, voilà à peu près ce qu'on entend beaucoup depuis de trop nombreuses années concernant les Canaries. Autrefois club historique de notre championnat de France, enfin il l'est toujours, mais club majeur du championnat de France, je référence dans l'Hexagone, le club de Loire-Atlantique, pas très loin de la Bretagne, végète dans des bas-fonds maussades depuis une petite vingtaine d'années. La faute au propriétaire atypique, Valdemar Kita, Peut-être, pas seulement. Quelle gestion pour ce club depuis sa reprise et pour quel résultat, quel avenir? On va essayer de revenir dessus, comprendre et analyser ce bordel ambiant. Mais avant toute chose, vous en avez l'habitude, retour sur le passé glorieux pour le coup de ce club, afin qu'on sache d'où on parle, les gars. Qui veut se lancer sur l'histoire du FC Nantes?
Bah écoute, je vais prendre la main là-dessus sur l'histoire du FC Nantes. Le FC Nantes, c'est un club qui a été créé en 1943, donc c'est pas forcément un club parmi les plus vieux de France, malgré le côté historique qu'on donne aujourd'hui à ce club, parce qu'il a eu des lettres de noblesse qui sont pas forcément les plus récentes et qu'on n'a pas toutes connues, en tout cas pas toutes, de notre vivant nous. Alors toi, Tom, pas du tout.
Du tout, moi je l'ai connu plus en Ligue 2 presque, le FC Nantes.
Hein. Ouais, toi, à part un but de Di Maria et une Coupe de France, pour toi le FC Nantes ça représente rien en fait.
Alors pas rien, mais oui, c'est oui.
Donc c'est un club qui a été fondé en 1943, donc en plus une période assez particulière parce que Nantes était évidemment occupée par l'Allemagne et par les nazis.
C'est le bon
donc,
moment en fait, pour fonder un club, tu sais, les mecs ils avaient que ça à foutre, ils se sont dit tiens.
Ouais, c'est exactement ça, bah, je parlerai des clubs plus tard, mais ils ont par exemple eu des problèmes de stade à cette époque-là qui étaient liés à cette problématique. En fait ça vient de la fusion de 5 clubs locaux, des sélections foot de ces 5 clubs omnisports à l'époque locaux, et il va être créé par Jean-Marc Guillou et Marcel Saupin, évidemment, qui sont les deux fondateurs qui vont permettre cette fusion. Et le club a progressé, donc assez rapidement, quasiment tout de suite, même à la Libération, se retrouve en deuxième division. Puis il va commencer à monter. Et en fait, la période dorée, le faste de Nantes, arrive dans les années 60 avec un homme, évidemment, José Arribas, qui va poser les fondations de ce FC Nantes, du jeu à la nantaise, qui va devenir aussi une force. Faut se rendre compte qu'à cette époque-là, le foot français, dans les années 60-70, quand Nantes atteint les sommets, on est au summum aussi d'une rivalité entre le FC Nantes, qui représente le beau jeu, et l'AS Saint-Etienne, qui va aller plus loin en Coupe d'Europe à cette période-là, mais qui va être le grand rival nantais, avec un jeu beaucoup plus physique sous Robert Herbin. Donc c'est vraiment cette dualité-là. Et s'il y a un homme à retenir de cette période, c'est José Arribas, donc qui prend poste en tant qu'entraîneur principal en 1960, pour quitter le club en 76, donc il va rester 16 ans à la tête du FC Nantes, à la tête des Canaries. Et il va surtout permettre au FC Nantes de gagner ses premiers titres. Donc en 1965, pour le premier championnat de France, suivra un second titre en 1966. Et en fait, des années 60-70, ils sont quasiment tout le temps champions ou vice-champions de France, je le disais, avec Saint-Etienne. Donc il y a un titre en 65, 66, 73, 77. Sachant que voilà, en 77, ce n'est plus José Arribas, on change d'entraîneur. C'est évidemment Jean-Vincent, il me semble, qui doit être l'entraîneur à ce moment-là. Et surtout, ensuite, c'est Coco Ciudo, qui est un des disciples de José Arribas, qui va reprendre les rênes après 6 années de Jean-Vincent, qui va reprendre les rênes en 82 et qui va là à nouveau insuffler ce jeu à la nantaise. Donc il va l'insuffler pendant 6 années, il va partir et il va revenir 3 ans après pour faire une deuxième période. Donc là, c'est la troisième période faste, on va dire, des Nantais, donc sur les années 90 avec la génération locaux. Et ensuite, ouais, ça sera Reynaldo Henex.
On voit bien qu'on est quand même... Non, j'ai juste précisé pour ceux qui ont mal suivi le décompte, qu'on voit bien qu'on est plus ou moins sur une trentaine d'années de gloire pour ce club.
Exactement, on est sur une trentaine d'années de gloire de ce club avec 8 titres de champion de France. Alors il y en a un qui étire en 2001 avec Reynaldo Henex, mais finalement c'est quand même très concentré de 65 à 95. Pareil pour les Coupes de France, même s'il y en a eu une plus récente contre le GC Nice. Mais effectivement, c'est la grande période de domination du FC Nantes.
Ok, et donc du coup, on arrive très vite. Enfin voilà, on va y revenir après. Un peu plus en détail sur ce jeu à la nantaise avec ces coachs qui ont fondé l'identité de ce club qui était basé avant tout sur le beau jeu avec ta chronique, Tom. Juste si on peut finir un petit peu, il y a encore dans les années 2000 quelques trucs un petit peu sympathiques qui se passent. Nous, on a commencé à connaître le FC Nantes à cette époque-là avec Flo. Est-ce que tu veux rajouter un truc, Tom?
Moi, c'était plus avant sur effectivement, c'est ouais. Pour moi, ce qui m'a marqué en tout cas, parce que évidemment, à part Alex, il n'y a personne qui était là à cette époque-là, mais
moi, j'ai l'impression que Alex était en cours avec Arribas. Hein.
Ah, voilà. Oui. Le club me marque plus comme un club aussi, l'un des premiers, avec, comme tu disais, Flo, Saint-Etienne, très bon en coupe, au-delà des Coupes de France, et c'est aussi la Coupe d'Europe. Alors, plus sur la suite, hein, parce qu'il y a une belle épopée en 79 où ils sont éliminés par le FC Valence de Kempes. Mais il y a aussi des années 94, 95 et surtout 96 où ils vont jusqu'en demi-finale de Coupe des Clubs Champions où ils sont éliminés par la Juve. Ouais. Donc, il y a eu un peu l'esprit revanchard quand ils les ont raffrontés en Europa League il y a 18 mois. Voilà, moi c'est vraiment ça qui m'a marqué avec le FC Nantes, plein de, évidemment, de très grands joueurs, des De Saïd, des Comboiré, des Deschamps à cette époque-là.
Oui, c'est pour ça il y a aussi eu des très beaux parcours européens.
Oui, oui.
On reparlera un petit peu de l'académie aussi après. C'est que pour une fois, pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter, on s'attarde un petit peu moins, on va dire, sur l'histoire du club parce qu'il y a un gros dos après qu'on va aborder de long en large. Donc on essaye de se garder de la place pour ça.
La dernière anecdote que je balançais parce que t'en parlais Flo, ouais, de Guillou, parce qu'on aime l'identité de club, et bah les couleurs du FC Nantes, le jaune et le vert du Canari, bah c'est bien des couleurs des jockeys de l'écurie du président. Ouais. Donc on avait déjà un président avec une grosse tête, on a eu Kita plus tard. Après, ça a été les joueurs qui avaient les grosses têtes.
C'est pas la tête qui est grosse avec Kita.
Non, c'est sûr. Et après, on a eu des joueurs avec les grosses têtes. Hein. Henri Michel, il a quand même refusé que Platoche vienne à Nantes parce que ça lui ferait de l'ombre. Donc voilà. La grosse tête à Nantes, ça semble être un petit problème.
En même temps, il lui en a fait un peu en équipe de France.
Un petit peu.
Du coup, les gars, je vous propose qu'avant qu'on aborde le sujet Kita avec le rachat du FC Nantes, on va aller sur la chronique de Tom qui va nous parler un peu mieux du jeu à la nantaise et de sa réputation dans toute la France.
Alors, jeu à la nantaise, expression en quatre mots, date de naissance 14 juillet 1960 et portée disparue depuis près de deux décennies. Alors, en ce jour de fête nationale, les Canaries voient arriver un coach basque dont on a parlé tout à l'heure, José Arribas, qui est recruté par le président Jean Clairefeuille et ça changera à tout jamais le club. Réfugié à Nantes pendant la guerre civile espagnole en 1936, il devient entraîneur en 1960 à 1976. Malheureusement, il ne verra jamais la Jonelière, œuvre de sa vie et première instance du centre de formation nantais, où il voulait former des joueurs, mais surtout les hommes du futur du club. Une des pistes exploitées par le fils d'Arribas pour expliquer ce style de jeu est de dire que la paume et le ballon, donc la paume, la balle du jeu de paume, les doigts sont les joueurs. Quand on la perd, la main se referme. Quand on la récupère, la main se déploie. C'est quand même plutôt beau. C'est un football assez expansif qu'on peut voir aujourd'hui chez Guardiola, mais qui était assez novateur dans les années 60. La définition du staff de l'époque explique plutôt ça comme un quadrillage du terrain, avec un mouvement et plusieurs solutions pour le porteur du ballon. Une base chez les minimes aujourd'hui, pour ceux qui ont joué au foot. L'autre évolution, c'est la condition physique des joueurs. Le recrutement des médecins du sport permet au club d'avoir des athlètes capables de courir toujours plus loin et toujours plus fort. Courir, courir et encore courir, puis anticiper. C'est les mots de Frédéric Daroche, champion de France en 2001 et coach chez les jeunes de Nantes aujourd'hui. Lui et d'autres anciens nantais tentent de relancer une machine qui a progressivement ne marche plus. D'abord avec le départ d'Arribas, puis sa mort en 1989. Les années 90 permettent encore une belle ode à ce style de jeu atypique qui a marqué la génération de nos parents, peut-être le vôtre aussi, grâce notamment au retour de Sadio à la direction du club. Mais quelques mois après le dernier titre de champion de France en 2001, la cloche de fin du jeu à la nantaise retentit. Le 28 décembre 2001, Reinald Denweck s'est remplacé par Angel Marcos. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est officiellement décédé ? Bah oui, parce que 20 ans après la disparition d'un individu, la loi française annonce la mort de cette personne. Le centre de formation devient le seul socle sur lequel se repose Kita à partir de 2008. Les finances du club l'obligent. Et dans ces conditions, les jeunes sont sous pression du résultat, ils sont formés différemment et se cassent la gueule beaucoup plus vite. Au fur et à mesure, Nantes et ses clubs locaux s'effacent et ne font plus revenir les recruteurs des meilleurs clubs européens. Aujourd'hui, c'est Rennes qui a ce rôle. C'est quand même marrant. D'autant plus que la DTN a changé les profils recherchés depuis 1998, plus physique et donc moins adepte au jeu à la nantaise. Aujourd'hui, la mémoire de cette époque survit dans la tête des supporters, de nos parents et surtout sur le terrain des clubs régionaux, entraînés par des anciens Canaris. Au-delà du style particulier, la continuité des générations et des équipes de jeunes était le vrai socle qui permettait de produire ce jeu et ce style si particulier pendant de nombreuses saisons. Ils n'ont plus ce temps d'avance sur le jeu et la formation. Dans l'impossibilité d'installer ces lignes directrices jusqu'au départ de Kita, les anciens et ceux qui bossent au centre de formation attendent patiemment que l'ennemi juré se casse. Un jour, les automatismes, les déplacements dans les demi-espaces et le redoublement de passes redeviendront vecteurs de succès au FC Nantes. En attendant, on ronge son frein et rêve des belles épopées nantaises. Du jeu JEU avant le jeu JE.
très belle conclusion. Merci Tom. Et puis après, pour ceux qui sont curieux et qui n'ont pas du tout connu cette époque, nous on l'a connu un petit peu sur la fin, mais il y a encore pas mal d'extraits sur YouTube et autres d'actions incroyables de ce qu'était le jeu à la Nantes, qui était une des premières équipes qui jouait principalement en une touche de balle. C'est vrai qu'il y avait un côté un peu guardiolesque, tu as raison là-dedans. Tom, les gars, justement, Tom, tu as fini et tu as conclu ta chronique là-dessus, donc sur le, entre guillemets, le fossoyeur du jeu à la Nantes, qui est Valdemar Quitta. Est-ce qu'on peut revenir du coup sur le rachat du club par Valdemar, par notre ami Valdemar, dont on a beaucoup parlé? Comment ça s'est fait? Dans quel contexte ça s'est fait? En quelle année? Racontez-moi tout là-dessus.
Eh ben effectivement, Valdemar Quitta, il rachète le FC Nantes en 2007. Il faut savoir que Valdemar Quitta, à ce moment, il avait déjà tenté une tentative de rachat justement en 98, qui avait alors été refusée parce que le projet n'était pas jugé viable par les propriétaires actuels. Et en 2007, le club est dans une autre galère financière. Entre-temps, lui, il a fait ses armes aussi du côté de la Suisse, où il a été propriétaire de Lausanne, s'il me semble bien. Et il arrive en 2007 dans un club qui est très malade, qui a enchaîné quelques saisons en deuxième division, qui a relancé Barthez, mais ça a été une catastrophe, et qui n'a surtout depuis 6 ans plus aucun titre, qui, on le disait, passe beaucoup en Ligue 2, et qui a surtout complètement perdu son ADN, que ça soit son ADN formatrice, mais aussi son ADN en termes de jeu, qualité de jeu. Et c'est dans ce scénario-là, et dans ce moment-là qu'arrive Valdemar Quitta, à l'époque, qu'on voit comme le sauveur.
J'allais dire, c'est ce qu'on disait. J'allais dire, c'est ce qu'on a un peu passé vite tout à l'heure dessus quand on abordait l'histoire du club. Tout n'a pas, enfin, les problèmes n'ont pas commencé non plus avec Quitta. Il arrivait dans une position de faiblesse.
Non, il arrive dans une position de faiblesse et il rachète à ce moment-là, même si Nantes connaît quelques saisons plus compliquées avant déjà, les supporters le voient plutôt d'un bon oeil parce que la direction qui est alors en place, le FC Nantes est alors une propriété de la Soc Press qui appartient à Dassault, qui est un milliardaire et une des grandes fortunes françaises, mais qui n'en a pas grand-chose à faire du foot et du FC Nantes. Les supporters le voient plutôt d'un bon oeil l'arrivée. Ils vont quand même assez rapidement déchanter puisque le club va très rapidement descendre. Mais effectivement, c'est un climat qui est pas celui qu'on connaît aujourd'hui.
D'autant que pour l'expliquer aussi, comme tu le dis, Valdemar Quitta, pour ceux qui connaissent moins le personnage ou qui ne s'intéressent pas au FC Nantes, il y a un côté un petit peu Gérard Lopez. C'est un très bon communicant quand il arrive. C'est un mec qui se débrouille très bien en communication. Donc il arrive à se faire apprécier à son arrivée au club.
Ouais, complètement.
Il arrive à se faire apprécier, et il arrive à parler aux supporters, ouais, effectivement.
Ouais, c'est un sacré personnage quand même qui a fait plutôt sa fortune. Alors ça, c'est aussi ça fait partie du personnage. Au début, c'est une boîte d'ophtalmo qui lui permet de bien vendre aux Américains et qu'il se fait pas mal de sous. La grosse vente quand même en 2022, c'est la vente de son laboratoire Vivacy. Bon bah là, pour le coup, t'en parlais tout à l'heure, c'est pas la grosse tête qu'il a. Lui, pour le coup, sa boîte, c'est l'allongement de pénis. Bon, il a servi sa première boîte pour pas avoir de rides, du coup ça lui fait un sorte de visage complètement plat, avide d'émotions, et puis en bas, bah, ça a l'air de plutôt bien marcher, quoi.
C'est une de ses boîtes, effectivement. C'est
un gros businessman à la base.
Ouais, clairement. Et qu'il fait ressentir dans les affaires aussi, hein, vu ses relations avec les agents.
Et donc du coup, ouais, on va y revenir sur ses relations avec les agents, etc. J'aimerais bien qu'on redéroule, les gars, avant de s'intéresser un peu plus en profondeur à la personnalité de Valdemar Quitta et à son empire, etc. Est-ce qu'on peut redérouler un petit peu, du coup, finalement, un petit peu les années Quitta, si on va vite dessus, c'est-à-dire sur la fin des années 2000, les années 2010, parce que ça n'a pas été simple tous les jours pour les supporters nantais.
Ouais, du coup, faut le savoir. Bon, tu disais tout à l'heure que Quitta, il arrivait déjà dans un club qui était un peu en marasme. On avait eu déjà 6 coachs en 7 ans avant son arrivée, donc au début des années 2000, sachant qu'il n'y en a eu que 5 pendant 40 ans les années d'avant. Bon, aujourd'hui, Quitta, c'est 20 entraîneurs. Hein, Gourvennec, c'est le 20e depuis 2007. Donc, ça fait quand même plus d'un entraîneur par saison. Il y en a eu beaucoup de très grands noms, beaucoup de moins bons noms. Le premier, c'était Eli Bope, qui, pour le coup, symbolise, je trouvais ça assez intéressant dans la vidéo que je regardais, qui symbolise quand même le sort de changement de Nantes, qui était aussi, c'est l'un des rares entraîneurs qui n'a pas été joueur à Nantes à cette époque-là. Et c'est devenu un truc beaucoup plus commun aujourd'hui. Alors évidemment, tu le diras, c'est un peu partout le cas en Ligue 1, parce que tu t'échanges un peu les mêmes entraîneurs, et à part si tu vas chercher Farioli, etc., en gros, c'est toujours les mêmes. Mais à l'époque, Nantes, c'était vraiment que des joueurs qui étaient passés par le club avant de devenir entraîneur. Il y a un retour du coup en Ligue 2 en 2008. Et c'est pour ça que moi, ça ne m'avait pas marqué autant le Nantes, parce que moi, c'est à ce moment-là que je commence à suivre le foot. Et ils reviennent qu'en 2013 avec Veretout et Lucado. Donc pour moi, Nantes, ce n'était pas forcément le grand club. C'est, voilà, c'est un club aujourd'hui qui a passé essentiellement de ma vie de footeux en Ligue 2. Donc, mais
ouais,
c'est
donc si, on récapitule ce que tu viens de dire, le début du mandat de Kita, on est sur du 5 ans en Ligue 2, entre guillemets.
Oui, clairement. Et puis ça se stabilise un petit peu avec Darzakarian, qui revient au club et après un premier passage. C'est très solide, c'est pas très séduisant, mais c'est imbriqué. Tu vois, Darzakarian avec les supporters, ça a l'air de bien marcher. Ils sont un peu... Bon, lui, il a la grosse tête, donc il arrive à tenir contre Kita. Et en même temps, il s'entend bien avec le public, il sent qu'ils sont avec lui. La tribu de Loire commence à se remplir à nouveau. C'est une des critiques un peu des supporters, c'est que bah, en Ligue 2, il n'y avait presque personne. Donc là, à nouveau, il y a de l'espoir, on arrive à se relancer. Darzakarian, il part une première fois. Il est remplacé par Sergio Conceição, qui a été quand même assez marquant, parce que bah, après avoir eu René Girard pendant quelques mois, bah, Conceição, c'est quand même beaucoup plus dynamique. Bah, il signe.
D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je crois que Conceição est encore l'entraîneur du FC Nantes au XXIe siècle qui a le meilleur ratio de points par match.
Ouais. Alors ouais, c'est bah... peut-être pour ça qu'il a étendu son contrat jusqu'en 2020 et que trois semaines plus tard, il signe à Porto, quoi.
C'est d'ailleurs probablement le meilleur passage du FC Nantes sous Kita, cette période oui. Où il y a l'enchaînement Sergio Conceição, où il y a une vraie philosophie de jeu, il y a des bons résultats sportifs et il y a un entraîneur qui est apprécié. Et ça permet aussi, même si ça dure qu'un an et demi, ça permet, même pas un an et demi d'ailleurs. C'est même pas un an.
Ranieri pour le coup qui est derrière
enchaîne. Et c'est Ranieri qui prend la suite. On s'en souvient avec l'imbroglio qu'il avait eu sur l'âge qu'il avait, puisqu'il n'avait plus l'âge officiel pour pouvoir entraîner, donc il avait une dérogation. Mais c'était.
Comme même Léo si Dubois, pareil, était... dans son équipe, ouais. Aussi dérogation pour jouer.
Mais là où tu fais bien de le préciser, Flo, c'est que c'est un peu ça qui caractérise les années Kita, en dehors du bordel de gestion, etc., sur lequel on va revenir. Mais on va dire que c'est un petit peu le fait que. Il n'y a pas eu que des phases catastrophiques avec Darzakarian. Ils ont fait des 5e, ils ont fait des 7e, 8e places, etc. Mais en revanche, ça n'a jamais vraiment bien joué, à part le passage contre Sao.
Ouais.
On n'a pas beaucoup vibré à Nantes les 20 dernières années.
Non, on a plus vibré en fin de saison pour se maintenir à l'arrache que vibrer pour le jeu ou pour des résultats sportifs assez emballants, même s'il y en a eu sur les deux dernières saisons, mais c'était plutôt épisodique. Et la situation en championnat, quand ils gagnaient en Coupe de France ou quand ils arrivaient à sortir d'une poule d'Europa League, la situation en championnat n'était pas bonne à côté. Donc il y a effectivement jamais eu de période de kiff. Cette période de kiff, on peut la trouver de l'arrivée de Conceição fin 2016 au départ de Ranieri à juin 2018. Et encore, sous Ranieri, c'était cohérent sportivement, mais c'était pas sexy à voir jouer.
Oui, non.
Mais effectivement, Darzakarian, c'est juste pour en parler, parce que c'est au-delà du fait que ça soit un coach quand même référencé en Ligue 1 et qui, même s'il a eu des échecs comme tous, mais il a eu aussi des réussites à Montpellier, à Nantes. C'est un joueur formé au club, c'est un joueur qui a été, enfin je crois qu'il a été formé au club, mais en tout cas qui a été assez important dans l'histoire du FC Nantes en tant que joueur, qui a été assez apprécié des supporters. Il a été deux fois sur le banc sous Kita et deux fois viré sous Kita. Et c'est à ces moments-là aussi que les supporters ont commencé à en vouloir à Kita, en se disant que virer, pas une légende, mais un joueur important de l'histoire du club, alors que sportivement, c'était pas forcément dégueulasse, c'était assez mal vu.
Surtout que son départ, il est quand même le deuxième, il est quand même significatif. Quand il essaie de faire son départ dans la tribune noire et qu'ils allument la sono pour l'empêcher de parler...
Ouais.
Voilà, en termes de départ, on a vu ça. Et puis, je rajouterai évidemment l'épisode de Salah qui a fait très mal au public, d'autant plus quand l'équipe a lâché les audios qui disaient qu'en gros, bah, Kita, il a forcé à partir au Pays de Galles et qu'il est mort dans l'avion dans la traversée de la Manche.
Bon, après, on ne va pas mettre la mort tragique de Salah.
Non, mais le départ forcé, en tout cas.
Le dossier est assez chargé.
Le départ forcé.
Mais après, ça met quelque chose quand même en lumière, que ce soit cette valse des coachs. C'est qu'avec Kita, en fait, il y a toujours beaucoup d'affect. On est rarement dans un raisonnement complètement sportif, que ce soit, on l'a vu avec Derzak, je pense que même avec Conceição, etc. Et c'est le cas aussi un petit peu dans les transferts, où là, ce n'est pas des histoires d'affect, mais de gros sous. Est-ce qu'on peut parler un peu du système Kita, qui a quand même une nébuleuse d'agents autour de lui, qui fait aussi qu'il n'y a pas de projet sportif très cohérent au FC Nantes?
Ah, c'est super. C'est probablement la chose la plus intéressante du FC Nantes en fait sur les 20 dernières années qui sont déroulées. C'est pas sur le terrain, mais c'est plutôt tout ce qui s'est passé en coulisses. On parlait tout à l'heure de la réussite non feinte hein, de Valdemar Quitta dans les affaires depuis qu'il a quitté la Pologne. Bah, en fait, le problème déjà, c'est qu'il gère complètement un club de foot comme une entreprise. Sans forcément
petit clin d'œil au Comex du début de semaine.
Et petit clin d'œil. Donc il le gère comme une entreprise d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue du management. Donc dès qu'il est en désaccord avec un de ses managers, en l'occurrence le coach, bah, il va avoir tendance à le virer. On l'a vu, et j'en parlerai aussi, mais sur les projets, on va dire, plus immobiliers liés à l'histoire du club, que ce soit les stades ou même ces derniers temps, le centre d'entraînement de la Jaunelière, qui est le centre d'entraînement historique, Valdemar Quitta, quand il n'est pas content des infrastructures, bah, il a envie de bouger son siège social. Sauf que le siège social d'une entreprise qui fait de l'agrandissement de pénis ou qui travaille dans l'ophtalmo, c'est pas bouger un stade ou c'est pas bouger un centre d'entraînement. Donc c'est son immense problème. On le voit très bien aussi, c'est que maintenant il a un peu lâché la main ces dernières années, et c'est franchement peu de le dire, mais il a mis son fils, donc un peu comme dans ces oui. grandes entreprises où on voit ce fonctionnement, où on met sa descendance pour gérer le club.
On va y revenir un petit peu, je pense, sur Franck Quitta après, à mon avis, parce qu'il y a aussi des choses à dire, parce que si on pouvait croire que ça allait changer beaucoup de choses, pas tant que ça.
Exactement, mais sur la nébuleuse, en tout cas, des agents. S'il y a bien un agent à sortir de tous, c'est évidemment Moji Bayat.
Sanogo pas mal aussi. Hein,
Sanogo pas mal, mais alors Moji Bayat, je pense qu'en ouais. termes de sulfureux, c'est quand même difficile de faire pire. On est quand même sur quelqu'un qui a été condamné et qui a fait de la prison. Hein, et qui, quand aujourd'hui on lui pose les questions sur ses transferts douteux avec le FC Nantes, sur ce lien avec le FC Nantes et sur ses activités hors la loi qui l'ont conduit en prison, il répond que c'était à l'antenne d'RMC de l'Afterfoot. Il avait répondu que Nelson Mandela avait lui aussi fait de la prison. Donc on imagine, voilà le type d'agent dont s'entoure Valdemar Quitta. Mais le problème, c'est que un petit peu comme Jorge Mendes dans certains clubs, il est pas Moji Bayat n'est pas juste un agent qu'on va faire croquer de temps en temps. Moji Bayat a été pendant une dizaine d'années. Alors il y a eu une embrouille l'année dernière sur le premier match d'Aristouille, avec Valdemar Quitta. Mais pendant une douzaine d'années, il a été en fait le directeur sportif secret du FC Nantes. C'est lui qui faisait les transferts, les arrivées et les départs. Donc évidemment, en mettant beaucoup de ses protégés et en croquant pas mal dessus, sans forcément voir l'intérêt sportif pour le club.
Sachant que Moji Bayat, pour ceux qui ont envie de creuser, par exemple, sur le sujet, je sais que Romain Molina fait plusieurs vidéos assez intéressantes, notamment sur lui. Enfin, c'est le genre de mec qui n'hésitait pas à faire des transferts au FC Nantes, où il était intermédiaire, mais c'est aussi lui qui touchait sur le départ du joueur dans un club en Belgique, et il touchait aussi sur l'arrivée du joueur à Nantes. On était dans un Exactement. Truc, un cercle très vertueux pour notre ami Moji. Et Tom, tu voulais en rajouter un peu sur Moji et les agents de Valdemar ?
Bah plutôt pour les conséquences qu'a pu avoir, enfin les suivis en justice qu'a pu avoir Quitta. Du coup, il était impliqué dans les Football Leaks et les Panama Papers quand même à une certaine période.
Chic type.
Parce que bah il avait des comptes offshore. Bon, il a toujours eu des problèmes avec son yacht. Et son appartement parisien aussi. La ville de Nantes a voulu, t'en parleras sûrement Flo, mais a voulu lui vendre du terrain pour le stade. Bon, bah, ils l'ont pas fait parce qu'il a un passé financier un peu particulier. Il était mis en examen pour 14 millions d'euros impayés pour les impôts. Des transferts douteux, il est mis en examen pour les transferts entre 2015 et 2018. Et franchement, vu les transferts, je vois même pas pourquoi tu vas te mettre dans la merde comme ça. On retirera les points retirés pour les joueurs suspendus qui jouent, les interdictions de recrutement pour les transferts bizarres. Mais par contre, le summum, que moi j'ai adoré parce que j'adore le personnage, évidemment, grosse ironie, il présente Pascal Pro quand même il y a 10 ans au Comex et il dit bon, bah voilà notre nouvelle gestion de communication, en gros, qui va payer 15 000 euros et il doit virer 27 membres du club pour pouvoir payer le salaire de Pascal Pro. Voilà, c'est en termes de gestion, on a vu mieux.
Pascal Pro, qui a toujours été très proche du FC Nantes, même quand il était journaliste foot, avec un magnifique reportage à la Jaunelière avec De Sailly. J'encourage tout le monde à aller voir ce reportage catastrophique.
Qui passait quand même sur TF1 et sur Téléfoot à l'époque. Hein.
Il avait fait une petite mise en scène où il demandait à Makelele et De Sailly de descendre d'un arbre. Petite métaphore. Voilà pourquoi. Où est Pascal désormais? Ceci explique cela. Les gars, moi, j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur le rapport qu'a du coup Valdemar Quitta, ce rapport qui s'est dégradé avec les supporters, qui n'est pas seulement sportif, parce qu'aujourd'hui, le FC Nantes, est dans une situation sportive qui est pas bonne du tout, mais qui est pas non plus, on va dire, enfin, j'ai grossi le trait, mais qui est pas catastrophique. En revanche, il y a un point de rupture qui a été atteint entre Kita et les supporters où on a l'impression que ça peut exploser à tout moment.
Ouais, alors moi c'est marrant parce que enfin avec Jules, on est un peu plus vieux que toi, Tom, et on suit le club depuis très longtemps, mais j'arrive même pas à déceler vraiment la date. J'ai un peu l'impression que ça a toujours été comme ça depuis que je m'intéresse vraiment aussi au mouvement de supporters. Alors quand il est arrivé en 2007, j'y faisais forcément moins attention, mais je parlais son arrivée a été plutôt bien reçue, mais que ça s'était très vite détérioré, notamment parce que Valdemar Kita a tout de suite parlé de la Beaujoire comme d'un stade vétuste. Et d'une potentielle volonté de bouger de la Beaujoire, donc forcément c'est rarement des choses qui font qui
même avec
qui
le logo hein. Le logo du club il a fait avec mal aussi, hein. Bah,
voilà, il y a eu le logo du club plus tard, il y a eu la jaunelière,
de toute façon, c'est ce que racontait Tom en off tout à l'heure. Si vous voulez voir l'intérêt qu'a Valdemar Kita pour conserver l'histoire du club et la mettre en avant, etc., on a fait des émissions sur Leverkusen, sur Nice, où tu as 3 pages d'histoire du club alors qu'ils en méritent moins. Le FC Nantes, qui a une histoire longue comme le bras, Tom nous racontait qu'il y a un demi-paragraphe sur le site.
Ouais, il y a deux paragraphes, et après, en fait, la liste des entraîneurs est plus longue que les paragraphes sur l'histoire du club. Il n'y a pas une ligne pour 96.
Toute l'importance qu'accorde Valdemar à l'histoire du club.
Par contre, Flo, je me demande si il y a eu plein de points de rupture, mais je pense que le point de rupture récent, en tout cas, ça a été le fait qu'il fasse délibérément capoter le rachat d'une boîte anglaise. Alors, je pourrais plus vous donner la date, c'est ça le manque de préparation, mais j'ai l'impression que c'est dans les 5 dernières années, et que lui, il a fait délibérément capoter le truc pour être sûr de garder sa grosse boîte qui marchait tellement bien.
Après, il y en a eu beaucoup, entre guillemets, il y en a eu beaucoup ces dernières années, comme disait Flo.
Je me souviens de
l'histoire du stade. Moi, je sais qu'il y en a une pour Kuntsevo, il y en a eu une aussi quand ça s'est barré. Mm. Et là, je vous annonce, il va y en avoir une nouvelle là, avec Harry Sui qui se barre avec des résultats pas si catastrophiques que ça, et l'arrivée de Gourvenec parce que c'est un pote du fils. Je pense qu'on va être sur un autre point de rupture.
Ouais, moi je me souviens je dirais peut-être pas 10 ans, mais je crois que c'est en 2016, d'un an de Toulouse où les résultats étaient catastrophiques et où des membres, alors pas forcément de la Brigade Loire, mais en tout cas des supporters du Virage, avaient envahi les tribunes, s'étaient rendus jusque dans les tribunes présidentielles et dans les loges, et Valdemar Kita avait dû être exfiltré. Je crois que on peut peut-être retrouver. C'est novembre 2016. Donc le point de rupture datait déjà d'avant, parce que si on arrive à envahir une tribune présidentielle, a priori, c'est que le point de rupture était. Oui. Et le en divorce est déjà bien consommé entre les deux. Il y a ce côté-là. C'est vrai que la Brigade Loire est devenue. Je crois que la Brigade Loire s'est faite à la toute fin. S'est créée, donc le groupe ultra principal s'est créé à la toute fin des années 90, mais a vraiment pris de l'importance en fait sous la présidence de Kita pour devenir finalement le seul gros groupe majeur d'ultra à la Beaujoire. Et en fait, si la Brigade Loire est aussi importante dans les bons comme dans les mauvais côtés aujourd'hui, c'est aussi parce qu'elle s'est nourrie de cette opposition à Valdemar Kita.
Ils ont fait beaucoup rire avec leur Kita Circus à l'arrivée de Domenech.
Oui, on mettra sûrement sur la vidéo dans avec un le... trade, mais le Kita Circus, c'était très beau à l'entraînement où ils ont mis une musique de cirque pour l'arrivée de Domenech.
Ouais, puis c'était à peu près à la même période, on avait aussi le cortège, enfin on s'en souvient, là où il y avait une plainte qui avait été déposée avec le cortège, avec les tombes.
C'était exactement la même période.
C'était exactement la même période, je me demande même si c'est pas même la même manifestation. Mais donc non, moi, ça fait une bonne douzaine d'années qu'il y a vraiment une opposition entre la direction du club et le FC Nantes. Et le problème, c'est que Valdemar Kita, de par sa personnalité et ses agissements, fait tout aussi pour envenimer la situation. Et depuis ces dernières années, il a, par rapport à d'autres sujets, mais même par rapport à ce sujet-là, complètement perdu le soutien des collectivités locales, le soutien de la mairie, le soutien des anciennes gloires du club. Et c'est pour ça qu'il y a différents projets. Le projet à la Nantaise, donc qui est un projet qui a été fondé par des supporters, mais aussi d'autres projets de repreneurs. On sait que Landreau a été très présent à un moment et qui sont aussi poussés par la ville pour essayer en fait de forcer Kita à vendre le club, parce qu'il est clairement en train de scléroser un club et une ville.
Et du coup, je suis allé à la rencontre d'Emmanuel Merceron, qui est suiveur du FC Nantes depuis les années 90. Il est très assidu sur l'actualité du FC Nantes et il nous raconte un petit peu plus sur la relation père-fils d'Ekita, qu'est-ce qui a pu changer et surtout l'organigramme autour d'eux et comment est-ce que ça marche ou pas au FC Nantes.
Et cet été, Franck Kita, lui, a décidé qu'il reprend un peu les rênes du club. Petit à petit, Valdemar Kita prenant du recul. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en étant extérieur au FC Nantes, on le voit de moins en moins dans les médias. Il était venu parader après la victoire en Coupe de France, mais on le voit de moins en moins. C'est surtout Franquita qui prend sa relève aujourd'hui. Et Franquita, lui, il a décidé de couper un peu avec tout ça. Et il a mis en place cet été, là, pour la première fois depuis longtemps, une cellule de recrutement qui est dirigée par Baptiste Drouet, qui est un ancien scout du FC Lorient. Et qui a travaillé pour la première fois sur le recrutement cet été et qui est sur le mercato d'hiver en ce moment. Donc ça, c'est l'organisation actuelle. Il y a encore évidemment quelques agents qui tournent autour du club, mais Franquita essaye un peu de faire ça plus dans les règles, parce que de toute façon, ils sont obligés, vu qu'ils sont, ils se sont retrouvés mis en examen pour ça, ils sont obligés de plus faire appel à des agents non licenciés à la FFF. Donc voilà, ils essaient de se mettre dans la norme et de remettre les formes aujourd'hui. Mais on sort quand même d'une dizaine d'années, en gros, de mainmise de Moji Bayat sur le club, qui faisait ses transactions entrantes, sortantes. Il avait même un moment, pour les plus techniques d'entre nous, il avait même à un moment un mandat de sortie et d'entrée sur tous les joueurs du FC Nantes, ce qui a tendu beaucoup de transferts avec des agents qui, évidemment, ne voulaient pas partager leur commission avec un mec qui n'a rien fait dans le transfert. Donc voilà pourquoi ces dernières années, l'effectif du FC Nantes s'est pas mal affaibli.
Et justement, donc, tu parles de Franck et des changements, au-delà de peut-être son rapport avec les agents, parce que forcé par la loi, est-ce que tu vois qu'il y a d'autres choses qui ont changé depuis le changement de Kita à la direction ?
Malheureusement non, puisqu'on a encore la valse des entraîneurs depuis l'arrivée de Valdemar Kita il y a 15-16 ans, on en est rendu au 22e coach avec Jocelyn Gourvennec, en comptant les intérimaires.
Ah oui, c'est ça, donc, avec les intérimaires, j'allais dire, sinon on avait compté 20.
Ouais, ça commence à faire une petite liste. Donc non, sur la valse des entraîneurs, là par exemple, on avait un sentiment un peu de renouveau la saison dernière avec l'arrivée de Pierre Aristoui, qui est évidemment pas Jurgen Klopp ou pas Pep Guardiola, mais qui avait des idées de jeu, qui avait sauvé le club avec une mission bien définie, où il avait tout, il avait annoncé dès son entrée en poste qu'il se sauverait à la dernière journée avec le match face à Angers, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, on a eu une très belle période en début de saison où on est monté jusqu'à la 7e place après 7-8 journées, et donc assez loin de la zone de relégation. Après 3 défaites, Franquita le vire alors qu'il était 10e. Aujourd'hui, on avait 5 ou 6 points d'avance sur la zone rouge. Aujourd'hui, sous Jocelyn Gourvennec, on est repassé 14 ou 15e et on n'a plus que 2 points d'avance sur la zone rouge. On est dans une dynamique catastrophique. Le problème est toujours le même. C'est-à-dire que Franck, tout comme son père, n'a confiance en personne à part lui. Et donc, c'est compliqué de travailler dans la longueur. Il a l'air d'être très emballé par Jocelyn Gourvennec. Je pense que c'est le seul à Nantes aujourd'hui. Donc, voire même à Lille et à Bordeaux, ils doivent bien rigoler. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas vraiment de changement aujourd'hui. Il y a quand même une cellule de recrutement plus pro. On va pas se mentir là-dessus. On va pas non plus taper sur l'Equita pour taper sur l'Equita. Il y a cette cellule de recrutement un peu plus pro, mais il y a encore des choses. Il y a encore énormément d'amateurisme. On est dans le deadline day aujourd'hui du mercato d'hiver. On a vendu Quentin Merlin, qui était notre latéral gauche titulaire et notre seul gaucher latéral. Et il est 9h44, le dernier jour du mercato. Il est parti il y a une semaine, on n'a toujours pas d'arrière-gauche. Franquita a tout misé sur Massadio Aïdara. Lance le bloc depuis hier soir parce que Franck S ne veut pas le laisser. Donc là, ils vont devoir faire un panic buy dans la journée pour un latéral-gauche. Donc on retrouve les mêmes errements que sous Valdemar.
Et on remercie Emmanuel pour son intervention. Vous pouvez aller le voir sur Twitter, sur Manu Merceron. Et puis, il a toujours plein d'infos sur l'FC Nantes, notamment sur le Mercato ces derniers jours.
Donc les gars, maintenant, on va voir ce qui va se passer à l'avenir avec la direction on va dire opérationnelle de Franquita. Après, ce qui me semble quand même compliqué, c'est qu'il y a une vraie fracture qui a été faite entre les supporters, potentiellement quelques joueurs et la direction du club. Et on parlait de fracture tout à l'heure, il y en a une qui a été majeure, c'est le moment où Kita a voulu se barrer de la Beaujoire. On a entendu parler pendant 5-6 ans, je ne sais pas où est ce projet, on va en savoir sûrement un peu plus dans la chronique de Flo qui va nous parler de ses projets de déménagement du FC Nantes.
Ouais, effectivement, et avant même de parler du projet récemment enterré, de projet Yellow Park, sur lequel je reviendrai, faut vraiment se rendre compte que le FC Nantes, c'est aussi une histoire de stade et de projet de stade, et que le club a à chaque fois évolué, grandi ou pas, avec l'histoire de ses stades. Donc, à sa fondation par Jean-Marc Guillou et Marcel Saupin, dont on parlait au printemps 1943, avec la fusion des 5 clubs locaux, le club évolue rapidement au stade Malakoff. Alors, rien à voir avec la ville. Après avoir connu, malgré ça, quelques mois au stade du Vivier, à celui de la Contrie, sur le terrain de la Mélinée, et au stade de Procès, qui est le seul à être encore utilisé aujourd'hui, stade de Procès qui n'a lui non plus rien à voir avec la famille Kita. Ce stade de Malakoff, on le disait tout à l'heure, le club est créé en 1943. Il est utilisé à ce moment-là par l'armée, la Wehrmacht, donc l'armée allemande et les nazis, comme un parking et un parc automobile. Et le club va seulement pouvoir utiliser ce stade à partir de 1945, puisqu'il aura été aussi bombardé en fait, pendant la libération de la ville en 1944. Et au cours des décennies qui suivront, le stade Malakoff ne va cesser de se rénover et de s'agrandir, suivant l'ascension du club, pour passer de 9000 places à près de 30000. Et surtout, il est devenu Marcel Saupin, en 1965, en hommage au fondateur du club décédé 2 ans plus tôt, en 1963. Le FC Nantes y célèbre alors son premier trophée majeur, sous José Arribas, avec le premier de ses 8 titres de champion de France, à peine 2 mois plus tard. Symbole des jaunes et verts, le club y remportera ses 6 premiers sacres avant d'abandonner les lieux. Trop exigu et face à l'impossibilité d'y réaliser des travaux d'envergure en raison de sa localisation en centre-ville, les pouvoirs publics et le club, qui marche alors main dans la main, profitent de l'organisation en France de l'Euro 84 pour lancer un tout nouveau projet de stade en périphérie de la ville. La Beaujoire, inaugurée en mai 84, et ses 52 000 places initiales, bien que la capacité sera progressivement ramenée à 35 000 places aujourd'hui, au gré des rénovations pour la Coupe du Monde 98, puis celle de rugby en 2007. C'est dans cette nouvelle antre que les Canaries poursuivront d'écrire leurs lettres de noblesse, dans la seconde partie des années 80, puis lors de la décennie 90, continuant d'y développer son célèbre jeu à la nantaise. Mais au rachat du club en 2007, un homme, le nouveau propriétaire Valdemar Kita, exprime son souhait de rénover et d'agrandir un stade qu'il juge vétuste et trop petit, à peine 23 ans après sa création. Un projet abandonné lorsque la municipalité de Nantes renonce à accueillir des rencontres de l'Euro 2016, faute de moyens financiers. Le président franco-polonais pousse alors pour un nouveau projet, celle d'une nouvelle enceinte, plus moderne, suivie dans un premier temps par la mairie. Le projet s'appelle Yellow Park et il est lancé en 2017, avec l'ambition de bâtir un écrin de plus de 40 000 places à l'ouest de l'actuelle Beaujoire, qui serait ainsi détruite, accompagnée de commerces, de logements, de bureaux, de restaurants, d'un musée du club ou encore d'une tour de 120 mètres de haut. Un projet évidemment contesté par les riverains et plus encore par les supporters du club, la Brigade Loire en tête, qui mettra rapidement fin aux projets immobiliers et commerciaux annexes, ainsi que celui de la destruction de la Beaujoire, laissant ainsi le projet avec 2 stades concurrents de plus de 30 000 places, côte à côte, l'un privé, l'autre public. Mais au début de l'année 2019, le projet privé, à plus de 200 millions d'euros, est finalement abandonné par la mairie à la suite des soupçons de fraude fiscale planant sur Valdemar Kita dans l'affaire des Panama Papers, notamment. Et ces derniers refusent désormais de vendre les terrains au club, jetant ainsi un froid, plus que froid, dans les relations entre la direction et la ville, poussant le club à réclamer désormais 12 millions d'euros de préjudice à la municipalité, alors qu'ils estiment avoir dépensé 9 millions dans la phase initiative. Depuis, le projet est bien évidemment enterré et n'a cessé de se creuser, le fossé entre Kita, père et fils, la Brigade Loire, autant que les fans du club et désormais même les pouvoirs publics.
Ouais, donc ça résume, en fait, on fait bien de terminer un petit peu le chapitre Kita sur la chronique de Flo, ça résume tout le bordel Kita, en fait, à Nantes, où, en fait, ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours, en fait, des nouvelles idées. On a l'impression même que parfois, tu sais, ils se creusent la tête pour se dire comment je vais les faire chier. Comment je vais aller faire chier le public. Et du coup, c'est un petit peu inquiétant. Les gars, je vois qu'on a beaucoup avancé dans le timing, donc on va aller un petit peu vite sur la situation sportive du FC Nantes actuelle, comment ça se déroule en ce moment, et du coup sur un peu vos pronostics pour la fin de saison et à moyen long terme de votre part. Donc est-ce qu'on peut parler déjà de la situation du FC Nantes sur le prêt, qui est pas bonne du tout? Ils sont à 3 points de Lyon, c'est vous dire.
Donc ils ont même réussi à perdre contre Lyon. Ouais. Lyon.
Alors oui. Oui.
Mais ils font surtout que descendre. Ça veut dire que là, ils ont pris 1 point en 5 matchs. Il y a eu ce limogeage de Aristouille. Honnêtement, moi, d'extérieur, j'ai pas trop compris parce que j'ai l'impression que ça se passait plutôt pas mal. Il avait le vestiaire derrière lui.
L'ADN nantaise.
Pas si mauvais que ça. Quoi ?
Il avait l'ADN nantais un peu.
Oui, il avait l'ADN nantaise parce qu'il venait de l'académie. Pour Maître Gourvennec, qui semble-t-il a des relations très proches avec Franck Kita. En plus. Je ne vais pas redonner mon avis parce que pour ceux qui suivent Potocaret depuis quelques années, j'ai toujours eu un avis sur Gourvennec qui n'est pas extrêmement favorable. Donc les gars, dans le désordre, qu'est-ce que vous voulez me dire un petit peu sur le groupe du FC Nantes, sur le coach, comment vous voyez ça? On va tout faire un petit peu en même
Je vais
temps
démarrer,
sur cette fin de saison du FC Nantes.
Je démarre un peu fort sur Gourvennec. La petite anecdote qui est très contestée par lui et donc les supporters, c'est qu'il est signé l'appel aux supporters nantais contre la mauvaise gestion de Kita il y a 3 ans. Et que finalement, il se retrouve là. Et dans sa conférence de presse d'ouverture, quand il y a un journaliste slash supporter qui lui pose la question par rapport à cette tribune, bah, il dit « j'en étais pas du tout au courant ». Et bah, les supporters, évidemment, contestent et ils disent « bon bah s'il ne voulait pas être dans cette tribune, il avait qu'à me rappeler parce qu'il était très véhément quand je l'ai appelé la première fois ». Donc voilà.
C'est marrant, on dirait des politiques députés ou ministres macronistes quand ils votent des lois et puis 5 ans après, ils disent « ah non, ouais. Ah, c'est pas moi hein. ».
C'est bientôt, je pense qu'on va apprendre que Gourvennec a signé la tribune pour soutenir Depardieu, à mon avis.
Ah, franchement…
Et il va dire qu'il n'était pas au courant. Ouais, donc Gourvennec arrive là-dedans, dans ce climat-là. Il y a un climat de défiance. En vrai, on va se le dire, même de la part ouais. des supporters, il y a un climat de défiance. C'est pour ça que je parlais de Kita. On a l'impression qu'ils cherchent à faire chier les supporters. C'est qu'en vrai, ils étaient derrière Aristouille et derrière l'équipe et ça tournait plutôt pas mal. Et on ne sait pas pourquoi, en fait, ils se tirent une balle dans le pied avec Gourvennec.
Mais exactement, mais même avant, effectivement, Aristouille, de par son passé, Aristouille, il a été quand même été nommé fin avril ou début mai 2023 dans une mission qui était quasi impossible, qui était de sauver le FC Nantes, qui avait un peu la trajectoire de cette saison où le FC Nantes avait fait un début de saison plutôt correct. Ils étaient même dans les places européennes, ou en tout cas à jouer les places européennes à mi-saison 2022-2023. Et ils s'étaient complètement écroulés sous la fin de Comboiré, qui n'en pouvait plus de la gestion avec Kita. Comboiré, qui était un peu comme Aristouille aujourd'hui versus Gourvennec, qui était très apprécié des supporters parce que ancienne légende du club, formé au club, mais surtout qui
très bon mec, hein.
Très bon mec, et il a quand même apporté une once de stabilité pendant un an et demi au club avec
et
un titre
et une Coupe de France,
avec un titre en Coupe de France, Ligue Europa, face à l'OGC Nice, une qualification en Ligue Europa, et ils sont sortis des poules. Et même s'ils n'ont pas voulu Akita forcément pour l'avoir viré, ils en ont plus voulu pour sa relation avec Comboiré, qui a fait en sorte en fait que le club en arrive là. Mais Arisu, lui, il a réussi l'opération maintien à la dernière journée, mais il a réussi avec succès. Et 5 mois après, on le vire pour des mauvais résultats. C'est effectivement ce qui a fait très mal aux supporters, et surtout en fait depuis l'arrivée de Gourvennec, il n'y a pas d'amélioration. Je crois qu'en 6 matchs de championnat, il y a eu 6 matchs de championnat sous Gourvennec. Le premier, c'était
le victoire contre Nice.
C'était début décembre. C'était une victoire contre Nice 1-0. Il y a eu 3 buts en 6 matchs. Il y a eu une seule victoire, qui était celle contre Nice. Sinon, ce sont quasiment essentiellement des défaites ou des
c'est un nul et 4 défaites après.
Un nul et 4 défaites, donc 4 défaites consécutives en plus, même une défaite contre l'Olympique Lyonnais, c'est dire. Alors, heureusement, il y a eu la bouffée d'oxygène qui a permis une victoire en Coupe de France contre Pau en 32e de finale. Pau qui est pensionnaire de Ligue 2, mais ils ont perdu 2 semaines après contre Laval, qui est une des très bonnes équipes de Ligue 2 cette année, hein, mais ça fait tâche, mine
mais
de rien.
Tu dois gagner contre Laval.
Exactement, un club de Ligue 1 qui se fait sortir par une Ligue 2, ça fera toujours tâche. Donc non, ça a été assez cata. Et après, d'un point de vue plus sportif, si on s'attarde un petit peu sur les joueurs, il y a des départs ces dernières années parce qu'il y a énormément d'instabilité dans les coulisses du club, sur le banc. Et évidemment, bah, ça se ressent, il y a aussi beaucoup d'instabilité chez les joueurs. Il y avait un joueur qui est resté pas mal d'années, qui était Andrei Giroteau, qui a été capitaine, qui était un peu le maître de la défense. Qui est parti en Arabie Saoudite ou au Qatar, j'ai un doute entre les deux, mais bref, qui est parti
Arabie
dans le
Saoudite,
golf. Arabie Saoudite, ouais. Et la défense a périclité depuis le départ d'Andrei Giroteau. Nicolas Palois n'a plus du tout le niveau qu'il avait avant. Lafond fait des très bons matchs, mais il est très irrégulier et beaucoup moins décisif qu'il ne l'était avant, même si typiquement le match contre Nice, il avait été excellent. Mais depuis, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et en plus, ils ont perdu Castelletto, qui était quand même la valeur sûre en défense, qui est parti à la CAN avec le Cameroun. Donc heureusement pour le FC Nantes et les Canaries, il va revenir. Mais,
Quentin Merlin est parti aussi.
Ouais. Ouais, Quentin Merlin vient de partir. C'est un club qui a un effectif où il n'y a pas énormément de qualité.
Mais,
et y a pas
et même encore une fois, dans la gestion, il y a des choses qu'on a encore un peu de mal à comprendre. Dans la gestion sportive,
ouais.
Tu avais sous Aristouille, ce qui marchait, c'était que le plan de jeu était confié à Pedro Chirivella au milieu. Qui est en fait là qui a été utilisé, je crois, dans un match l'autre fois avec Gourvennec, il a été utilisé à droite, il l'a sorti plus ou moins à la mi-temps, etc. Il le sort parfois. Enfin, t'as plein de trucs qui sont bizarres, et dans les coulisses, t'as des trucs qui sont étranges aussi. Ça, c'est que mon avis perso, mais la vente de Quentin Merlin, est-ce qu'elle urgeait tant que ça? Est-ce qu'il aurait pas pu partir cet été vu la situation ouais. du club, alors que c'est quand même une des rares valeurs sûres?
Il faut juste aussi savoir, je ne sais pas exactement la date, quel est l'état des finances pardon, du FC Nantes. C'est quand même un club qui a jamais eu de problème réel devant la DNCG, mais qui est quand même toujours un peu ric-rac. Et en 2023, Valdemar Quitta, pour rendre un bilan avec un bénéfice de 115 000 euros, il a dû injecter 21 millions de sa poche. Donc c'est aussi le club est face à des grosses difficultés économiques et Valdemar Quitta, quand c'est comme ça, bah ils vendent un joueur tout de suite.
Bon, il y en a un qui risque de partir rapidement, c'est Mustapha Mohamed après la CAN qui vient de sortir. Je pense que il y a pas de doute qu'il partira enfin de Nantes, je pense.
Oui, bah certainement, et surtout son début de saison était également très bon, il va leur faire du bien quand il va revenir, mais là on parle aussi du jeune Mouepou en défense qui est international espoir ou U19, je ne sais plus, et qui a joué qu'une dizaine de minutes. Le pauvre, son entrée en jeu était dure. Il est sorti sur carton rouge au bout de 10 minutes. Mais c'est quand même un gros prospect. A priori, il serait vendu pour une bouchée de pain à Lens. Donc, peut-être qu'il y a en effet des difficultés financières. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour Nantes, les gars, honnêtement? Parce que là, j'ai l'impression qu'ils y vont tout droit.
J'écoutais l'after là, l'autre jour, c'est l'after avant-hier. Qui disait que bah effectivement il comprenait pas trop le changement d'entraîneur. L'avantage par contre que peut signaler pour le moment Gourvennec, alors c'est peut-être encore une fois, on l'a vu avec Mourinho pour l'obligation aussi, mais il fait jouer des jeunes de l'académie, qui n'était pas forcément le cas des entraîneurs précédents. Il y a beaucoup de
jeunesse. C'était ce qui était reproché à Aristouy notamment, de ne pas faire jouer alors qu'il était.
Voilà.
Il était issu de la formation.
Exactement, donc il y en a quelques-uns dans le milieu, tu viens d'en citer un, malgré le fait que c'est le plus jeune. Alors, c'était le deuxième plus jeune joueur à avoir joué en Ligue 1, le troisième né en 2007, et le plus jeune joueur à avoir été exclu pour un double carton jaune. Bon, c'est des sacrés débuts quand même. Non, mais voilà, Gourvennec, alors, comme j'ai dit, peut-être par obligation, il est obligé de faire jouer des jeunes. Mourinho l'a fait aussi, alors qu'il déteste ça. Après, est-ce qu'on peut espérer autre chose qu'une descente? Je suis pas sûr. Encore une fois, l'avantage aujourd'hui d'avoir un barragiste et que 18 clubs, c'est que tu gagnes 3 fois, tu es 15e, regarde Lyon. Mais il faut un sacré retournement de situation pour voir autre chose que Nantes descendre, ou au moins un barragiste. Enfin, je vois pas beaucoup d'équipes qui sont beaucoup plus faibles que Nantes.
Les arrivées de l'hiver avec Kadewere et l'autre joueur là qui vient d'Angleterre, je sais plus comment il s'appelle.
Benny.
Oui, exactement. Benny Traoré.
J'étais sur Benny Traoré. Benny Traoré.
Et ça vous donne pas du baume au cœur pour nos amis canaris.
Tino a jamais été dans mon cœur, mais bon.
Je suis pas sûr. Tino Kadewere peut être un joueur potable dans un club de milieu de tableau de Ligue 1 éventuellement, mais est-ce que c'est un joueur qui va réussir à sauver un effectif qui est en déliquescence totale? Je suis pas persuadé.
La confiance.
Moi honnêtement, le seul espoir que j'ai pour le FC Nantes, c'est qu'il y ait pire derrière. C'est que Lorient et Clermont, ou que Lorient et Metz, parce que bon, je vois pas comment Lorient finira par se maintenir, soit pire.
L'Olympique Lyonnais logiquement est meilleur que Nantes,
oui, c'est pour ça que j'ai pas de millions dans la ouais, enfin, à un moment on va quand même falloir vraiment les mettre jusqu'à la fin, mais
bien sûr.
Je pense qu'il y aura peut-être pire que Nantes cette saison. Moi je vois très fort arriver un changement d'entraîneur encore en cours de saison, un mois avant la fin. En revanche,
on va lancer les paris sur qui ça va être.
Je pense que la place la plus dangereuse, évidemment, c'est les deux dernières. Hein, mais je pense qu'il y aura plus faible que Nantes. Par contre, Nantes 16e, je ne les vois pas non plus se maintenir en barrage. Il y a des équipes très solides en Ligue 2 cette saison qui vont jouer la montée. Alors, à voir lequel de ces équipes seront en barrage et lesquelles seront directement en train de monter. Mais je pense que Nantes, un peu comme Saint-Etienne il y a 2 ans, aura d'immenses difficultés à jouer une équipe en plein boom et qui montera de Ligue 2 pour l'accession et la promotion en Ligue 1. Donc non, j'ai pas un grand espoir en fait sur l'amélioration de Nantes. Moi, je pense que c'est juste qu'il y ait moins pire derrière. Il faudra voir effectivement les retours à la CAN, de la CAN de Mustapha Mohamed, de Castelletto, qui vont faire du bien. Est-ce que ça va stabiliser Palois aussi? Parce que là sur les 3-4 derniers matchs du FC Nantes, si on enlève Florent Mollet, c'est quand même catastrophique cet effectif. Il y a Marcus Coco qui je trouve un bon joueur, même si bon, il avait eu sa grave blessure, mais un très bon joueur de ballon, mais qui ne joue pas à son poste. Il y a le départ de Quentin Merlin. Franchement, à part Mollet et Moses Simon, mais qui pareil est sur courant alternatif, c'était très très compliqué à voir jouer au FC Nantes. Il n'y avait pas grand chose qui ressemblait.
C'est vrai que ce qui est, quand on peut reparler de la blessure de Quentin, mais tu regardes cet été. Tu perds Blas, Giroto, qui ne sont pas remplacés, c'est quand même compliqué, enfin, ou qui sont à moitié remplacés.
Ouais. Et puis juste Mais effectivement, Tom, il parlait assez justement des jeunes que lance un peu plus Gourvennec par rapport à Aristouy. Nathan, donc à un moment, bon, Merlin est parti, mais il y avait jusqu'à 4 joueurs qui jouaient en même temps avec Quentin Merlin, Nathan Zézé, Hugo Bouchnigam et Adel Mahamoud. Mais pour autant, est-ce que c'est en lançant des jeunes qu'on va réussir à maintenir un club où il y a en plus une pression qui est assez forte et où il y a à peu près rien qui fonctionne normalement dans ce club-là? Je doute fort de ça.
Non, et très honnêtement, Pierre Aristouy, qui est quand même un mec qui vient du club et qui vient de l'académie, je pense que s'il avait voulu le faire, il l'aurait fait. Je pense que la situation faisait que c'est compliqué de lancer les jeunes quand tu es entre guillemets en mission commando. Et je pense que, comme tu dis, il y aura peut-être plus faible qu'eux cette saison-là. À voir comment Clermont se relance, parce que ça peut être Lorient et Nantes, hein, les deux derniers. À voir comment Clermont se relance. Mais je pense que quoi qu'il arrive en fin de saison, à mon avis, ils remercieront Aristouy d'avoir pris une quinzaine de points en début de saison, parce que ça va leur faire du bien à la fin. Est-ce que vous voulez rajouter, les gars, un petit mot avant qu'on conclue cette émission sur le FC Kita?
Moi, je l'ai dit en off tout à l'heure, mais je voudrais souligner le courage des joueurs de pouvoir continuer, notamment ceux qui sont là depuis longtemps. C'est peut-être pas eux qui prennent les pressions de Kita, qui a quand même dit dans une interview que un vestiaire c'est un état dans un état. C'est pas normal que j'ai pas accès au vestiaire et que l'entraîneur est juste un employé, donc moi je devrais pouvoir faire ce que je veux. Bon, si Kita il rentre dans le vestiaire, il insulte la moitié de l'effectif, je suis pas sûr comment tu continues d'avancer. Et pourtant t'en as qui continuent de venir au club malgré cela, donc chapeau aux joueurs de continuer de l'avant, parce que c'est un beau public, c'est une belle ville et qui mérite un club. On l'a dit la même chose sur Saint-Té et Bordeaux, mais c'est des clubs qui méritent d'être en Ligue 1. Je ne suis pas dans le truc chauviniste de « il faut la Super Ligue de France », mais c'est un beau club avec une belle histoire qui mériterait mieux que ça. Donc j'espère dans les 5 années qui viennent qu'on aura un nouveau racheteur et que Kita abandonnera finalement, mais je ne suis pas sûr que ça soit gagné tout de suite. Hein.
Non. Moi, je voulais juste rajouter que quand un club et un dirigeant fait confiance à Gilles Favard, bon, on sait forcément où ça mène.
Et Pascal Pro et Raymond Domenech, le trio
et
ultime.
Et Pascal Pro et Raymond Domenech.
Mais justement, moi, j'allais mettre Domenech sur mon pari de celui qui revient dans un mois.
Mais
un mois
en fait, c'est un peu le mot de la conclusion que je vais faire. C'est qu'en fait, on parle de cette fin de saison et on souhaite au FC Nantes de se maintenir, parce que moi, je suis un peu d'accord, même en tant que Rennais avec Tom, on est content qu'ils soient en Ligue 1 quand même. Mais en vrai... Enfin, t'as l'impression que le Kita Circus va revenir l'an prochain. Je veux dire, tant que Kita est là, en fait, ça va être le même merdier tous les ans. Donc, on espère que vous allez vous maintenir, mais on espère surtout que Kita va peut-être glisser sur sa bite et se faire une fracture du coccyx qui va l'obliger à quitter ses fonctions, j'en sais rien.
Ouais. Ouais.
Flo, je vois lever les yeux au ciel, t'es d'accord?
Non, ouais, je suis d'accord. Et le dernier truc, en fait, c'est que même s'il y a une rivalité ou quoi, et effectivement, on a besoin d'un FC Nantes parce que c'est un club historique, c'est un club d'une grande ville et on a besoin du FC Nantes en Ligue 1, rien que pour pouvoir défoncer toi des gens pendant un derby 2 fois par saison. Mais au-delà de ça, ce qui est assez triste pour les supporters nantais, c'est que ça fait quand même très longtemps que ça dure, trop longtemps, et que un petit peu à l'instar de l'OM, tous les 6 mois, il y a des rumeurs vente FC Nantes. Et on n'a pas l'impression que Valdemar Quita il a envie de lâcher le bateau, quoi.
Je vois bien l'Arabie Saoudite arriver à Nantes, hein, quoi. C'est un peu dépaysé.
Moi, je suis pas sûr. Mais bon, en tout cas, voilà. Moi, comme j'ai dit, j'espère qu'ils vont se maintenir. Et je suis d'accord avec toi, même si on est des clubs adverses, en fait, on est content d'avoir les derbies. En fait, enfin, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de supporters de Liverpool qui souhaitent qu'Everton descende en Championship. On est content qu'ils soient là juste pour ne serait-ce que pour leur rouler dessus.
Oui, bah voilà. C'est triste de les voir descendre.
Bon, en tout cas, les gars, cette émission était un petit peu plus décousue. On apprend avec ce nouveau format, etc. Vous avez vu, il y a aussi des intervenants extérieurs. On vous mettra certainement l'interview qu'on a fait avec Emmanuel Merceron en format global, parce qu'on a parlé 15-20 minutes avec lui. Donc, on la mettra certainement en entier où vous pourrez la retrouver et vous en apprendrez beaucoup plus sur le fonctionnement du FC Nantes. Mais bon, voilà, il y avait beaucoup de choses à dire sur Kita et sa gestion du club. En tout cas, on souhaite le meilleur aux Nantais. C'est pas pour tout de suite, ça fait longtemps que vous serrez les dents, les gars, donc continuez. Et nous, on se voit dans 15 jours pour reparler d'un club à la gestion catastrophique. Voilà. Merci à tous de continuer à nous suivre et on se voit dans 15 jours. Ciao.